Chapitre 4 : Le triomphe. Très vite, Nana devient une femme chic. Quand elle passait en voiture sur les boulevards, la foule se retournait. L'hôtel de Nana se trouvait avenue de Villiers. Le comte Muffat avait acheté l'hôtel meublé, rempli de bibelots, de belles tapisseries d'Orient et de grands fauteuils Louis XIII. Nana, elle, avait quitté le théâtre dès la troisième représentation de « La petite duchesse ». Dès le début, Nana avait établi les règles de leur relation. Il donnait 12 000 francs par mois, sans compter les cadeaux, et ne demandait en retour qu'une fidélité absolue. Elle avait juré la fidélité, mais avait demandé une liberté entière de maîtresse de maison. Il viendrait à des heures précises. Très vite, elle avait pris de l'influence sur lui. Toujours avec justice et honnêteté, elle s'occupait de ses affaires, de sa femme, de sa fille. Une seule fois, elle s'était énervée, le jour où il lui avait dit que Dagnet allait demander sa fille Estelle en mariage. Elle lui avait raconté son histoire avec Dagnet en donnant des détails dégoûtants. Muffat était devenu très pâle. Il n'avait plus parlé du mariage. Nana, un soir, avait gardé le comte Vandœuvre pour la nuit. Elle avait cédé pour se prouver qu'elle était libre. Lui aussi avait accepté les conditions de Nana. Une liberté entière, des caresses à jour fixe. Un matin, Zoé fait entrer un monsieur tout tremblant.
« Tiens, Georges !»
dit Nana étonnée. Sa mère lui avait permis de quitter les fondettes. En racontant son histoire, il avançait les doigts. Il avait besoin de la toucher après cette cruelle année de séparation.
« Tu aimes toujours ton bébé ?»
demande-t-il de sa voix d'enfant.
« Bien sûr !»
répond Nana.
« Mais tu sais, mon petit, je ne suis pas libre. Il faut être sage. »
Elle aurait voulu l'avoir pour camarade, mais quand il venait la voir, il semblait si malheureux qu'elle cédait encore souvent. Il ne quittait plus l'hôtel. Sa mère, ayant appris qu'il était retourné voir Nana, avait demandé l'aide de son autre fils, le lieutenant Philippe. Un jour, Georges était seul avec Nana quand Philippe Hugon entre dans l'hôtel. Georges devient tout pâle. Il part dans une autre pièce. Il entendait très mal. Pourtant, il attrapait quelques mots dits par Philippe, des phrases dures avec les mots d'enfant, de famille, d'honneur. Mais bientôt, la voix de son frère s'adoucit. Que pouvait-il faire pendant si longtemps? Il sort de la pièce et court à la porte, collant son oreille. Il est stupéfait, car il entend des voix tendres qui parlent tout bas, des rires de femmes qu'on chatouille. Puis Nana ramène Philippe jusqu'à l'escalier. Georges entre dans le salon.
Eh bien, demande-t-il.
Ne t'inquiète plus, ton frère va rassurer ta maman. D'ailleurs, tu verras ton frère ici. Je l'ai invité, il reviendra.
Ah, il reviendra, dit le petit en pâlissant.
Georges ne saura jamais comment Philippe avait rassuré leur mère. 3 jours plus tard, elle retournait aux fondettes. Le soir même, le lieutenant entre chez Nana. Nana est ravie. Un après-midi, les fils Hugon étaient là quand le comte Muffat arrive en dehors des heures fixées. Zoé lui répond que madame est avec des amis. Il s'en va. Le soir, Nana lui dit
« Quand je serai chez moi, entrez, même si je ne vous attendais pas. Oui, aujourd'hui, il y avait des hommes. Que croyez-vous donc que je fasse avec ces hommes ?»
À partir de ce jour, les fils Hugon, Vandœuvre et Muffat venaient en même temps à l'hôtel. Pourtant, Nana s'ennuyait. Un après-midi, Nana aperçoit sur un trottoir une femme qui marche, les bottines abîmées, les jupes sales. Elle fait arrêter le cocher.
Satin ? Monte donc, ma fille !
Dit Nana, se moquant des gens qui regardent. À partir de ce jour, Nana a une nouvelle passion,
Satin devient son vice. Des après-midi de tendresse commencent entre les deux femmes, des mots doux, des baisers coupés de rire. Puis un soir, l'histoire devient sérieuse. Mais le matin du quatrième jour, Satin disparaît. Nana la retrouve dans un bar avec une autre femme. L'histoire se répète. Nana courait après Satin qui s'envolait de l'hôtel. Depuis quelque temps, le comte Muffa semblait soucieux. Un matin, très ému, il met sous les yeux de Nana une lettre anonyme où on l'accuse de tromper le comte avec Vandeuvre et les fils Hugon.
« C'est faux !»
crie-t-elle énergiquement. Mais la lettre ne s'arrêtait pas là. Elle parlait de son histoire avec Satin.
« Ça, mon loup, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que ça peut te faire ?»
Elle ne niait pas. Il était révolté. Alors elle hausse les épaules. D'où sortait-il ? Ça se faisait partout, même dans le beau monde. Puis, la dispute continuant, elle dit.
« D'ailleurs, mon cher, si ça ne te convient pas, c'est bien simple. Les portes sont ouvertes. »
Il baisse la tête. À partir de ce jour, Satin est installé dans la maison, comme ses messieurs. Un soir où Nana mangeait seule dans un restaurant, Dagnay arrive.
« Eh bien, et ton mariage, mon petit, ça marche ?»
lui dit-elle. « Pas fort, » répond Dagnay. Nana le regarde avec ironie.
« Écoute, tu te marieras si je veux, mon petit. »
Alors, après avoir mis ses gants, il lui demande la main de Mademoiselle Estelle de Beuville. Elle finit par rire. Quand ils quittent la table, ils sont à nouveau amis. 2 heures plus tard, elle dit en se rhabillant.
« Alors, Mimi, tu y tiens à ce mariage ?»«
Oui, » murmure-t-il. « Tu sais que je n'ai plus d'argent. »«
Mon Dieu ! Moi, je veux bien. Je vais t'aider. »
Un soir, Satin, Nana et le comte se retrouvent seuls. Nana demande au comte si sa fille Estelle va mieux. La veille, il s'était plaint de la tristesse de cet enfant.
« Si tu la mariais, »
dit-elle. Elle parle de Dagnay. Le comte à ce nom est révolté. Jamais après ce qu'elle lui avait appris. Elle éclate de rire et, le prenant par le cou, lui dit.
« Oh, le jaloux ! Réfléchis un peu. Je ne veux pas empêcher le bonheur de ta fille. Ce jeune homme est très bien. »
Et elle se lance dans un éloge de Dagnay. Le comte ne disait plus non. Il réfléchirait. Puis il parle de se coucher, alors elle baisse la voix. Impossible, elle était indisposée. Il part. Satin prend Nana par la taille, danse, chante.
Viens donc, viens donc!
Ce dimanche de juin, on courait le Grand Prix de Paris au Bois de Boulogne. Nana était venue de très bonne heure dans sa voiture attelée à 4 chevaux blancs magnifiques. Quand elle était arrivée, il y avait eu une bousculade, comme au passage d'une reine. Elle portait les couleurs de l'écurie Vandeuvre. Une jument de Vandeuvre qui portait son prénom courait ce jour-là. La jeune femme discutait avec Georges et Philippe Hugon, assis devant elle sur l'autre banquette.
« Regardez, les mignons arrivent. À propos, connaissez-vous un petit vieux ? Un monsieur Venot. Il est venu me voir ce matin. Il m'a parlé du comte, me suppliant de rendre le bonheur à sa famille. »«
Justement, la comtesse est là-bas, » dit Georges.
« Ah oui, je la vois, » dit-elle. « Tiens, Dagnay va les saluer. »
Philippe parle du prochain mariage de Dagnay avec Estelle. L'affaire était décidée. La bordette arrivait. Il s'y connaissait en chevaux.
« À combien suis-je ? »
demande Nana en riant. Elle parlait de Nana la pouliche, qui avait été battue dans plusieurs courses, dont une par Lusignan, l'autre cheval de l'écurie Vandeuvre. Du coup, Lusignan était grand favori. Toujours à 50, répond la Bordette.
Diable, je ne vaux pas cher, dit Nana, que cette plaisanterie amusait. À combien est l'anglais?
Spirit, à 3.
Tiens, c'est idiot de la Faloise, dit Georges.
Nana ne reconnaissait pas la Faloise. Depuis qu'il avait hérité, il était devenu très chic. Quand il voit Nana, la Faloise vient vers elle et murmure.
J'ai une inspiration. Je mets 1 louis sur Nana.
Bravo, je mets 2 louis, dit Georges.
Moi, 3 louis, ajoute Philippe.
On aurait dit qu'ils se disputaient Nana aux enchères. Ils décident de faire miser d'autres hommes sur Nana. Steiner joue 3 louis.
Eh bien,
demande Nana quelque temps plus tard.
Vous êtes à 40, dit la Faloise.
À 40, crie-t-elle. J'étais à 50, que se passe-t-il?
La Bordette, justement, était revenue. Elle le questionne sur cette hausse de la cote, mais il répond évasivement. L'impératrice entrait dans la petite tribune centrale. Le comte Muffa, qui était son chambellan, était derrière elle. C'était toute une histoire. Les Tuileries étaient scandalisées par la conduite du chambellan depuis qu'il était avec Nana.
Vous savez, ces gens ne m'étonnent plus, moi. Je les connais trop. Saleté en bas, saleté en haut, dit Nana.
Mais quelqu'un la touchait par derrière. Mignon.
Rose a trouvé une lettre écrite par la comtesse Muffa dans la poche de Fauchery. Elle veut envoyer la lettre au comte pour se venger de lui et de toi.
Fauchery était devenu l'amant de Rose.
Qu'est-ce que ça peut me faire?
Répond Nana. Mais le grand prix allait être couru, la fièvre augmentait. Une surprise étonnait les parieurs, la hausse de la cote de Nana. Certains disaient qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Autour de Nana, on parlait tout bas. Vendeuvre arrivait, très nerveux.
« Dis donc, pourquoi la cote de ta jument monte-t-elle ? » lui dit-elle tout bas. « Elle a des chances ?»
Vendeuvre s'énerve sans raison.
« Fiche-moi la paix. Tous les chevaux ont des chances. »
Et il part. La foule frémit. Les chevaux arrivaient un à un. Un murmure accueille Spirit, un grand cheval brun, superbe. Lusignan, très foncé, est presque oublié à cause de Nana. Le soleil dorait la pouliche d'une blondeur de fille rousse.
« Tiens, elle a mes cheveux !»
crie Nana ravie. La course commence. À la montée, Valerio II prend la tête. Cosinus et Hasard perdaient du terrain, pendant que Lusignan et Spirit, nez contre nez, avaient toujours Nana derrière eux. Un à un, derrière le bouquet d'arbres, les chevaux réapparaissent. Valerio II tenait encore la tête, mais Spirit le gagnait. Derrière lui, Lusignan avait lâché. Un autre cheval avait pris sa place.
Mais c'est Nana! On la reconnaît bien à sa couleur d'or!
Lentement, la pouliche gagnait du terrain. À présent, le peloton de chevaux arrivait de face.
Les voilà! Les voilà! Les voilà!
Nana gagnait encore du terrain. Maintenant, elle tenait la tête avec Spirit.
Bravo, Nana!
Sur le siège de sa voiture, Nana, sans le savoir, balançait ses cuisses et ses reins, comme si elle courait la course. On entend une grande acclamation. Nana avait battu Spirit d'une longueur de tête.
« Nana ! Nana ! »
Le cri grandissait.
« Nana ! Nana ! »
Nana écoutait son nom. Son peuple l'applaudissait. Mais Mignon arrivait.
« Rose va envoyer la lettre. Elle est trop énervée à présent. »«
Tant mieux, ça m'arrange. »
dit Nana. Les courses étaient terminées. À présent, c'était clair. Vendeuvre, depuis 2 ans, préparait son coup. Les perdants se fâchaient, les gagnants haussaient les épaules. Mais d'autres bruits, très graves, arrivaient. Vendeuvre était fini. Il avait tout gâché par un vol idiot, en demandant à Maréchal, un bookmaker véreux,
de miser 2000 louis sur Lusignan. Lusignan avait perdu, et Maréchal avait compris, en voyant la Bordette et Vandeuvre parler après la course, qu'ils avaient préparé Nana pour la course, et qu'ils l'avaient fait parier sur Lusignan en sachant qu'il perdrait. Il avait parlé. Le jury des courses allait se réunir. Le mardi suivant, Vandeuvre, exclu des champs de course, se faisait flamber dans son écurie avec ses chevaux.